discussion du soir. Les discussions du soir, Régis Debray. Guerre, sécurité, terrorisme, rapports de force internationaux, chaque vendredi soir, Régis Debray converse librement avec des personnes d'expérience, militaires, diplomates et stratèges.
Oui, François-Bernard Huyghe, vous êtes directeur de recherche à l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques.
Bonsoir.
Et j'ai donc plaisir à vous recevoir pour parler de ce qui va être le thème de tous ces entretiens, la guerre. Oui, François-Bernard Huyghe, en France, on préfère réfléchir sur la paix que sur la guerre. Dans le monde anglo-saxon, il y a des war studies, des études de guerre, mais chez nous, la paix, c'est plus noble, c'est très culturel, c'est UNESCO, c'est consensuel. Et puis, 70 ans de paix en France, ça nous a peut-être déshabitués de la guerre. Mais vous, si je vous ai invité, c'est que vous faites partie de ce que j'appellerais le petit complexe militaro-intellectuel français, c'est-à-dire que vous faites partie de ce qu'on appelle parfois les intellectuels de défense. Je ne parle pas, bien sûr, des 20 ans guerre rhétoriques qui appellent l'Occident à bombarder les méchants. Mais donc, vous êtes l'un des rares qui avait pris la guerre comme thème d'étude.
Alors, après être passé par l'UNESCO, donc je connais aussi l'univers des bisounours. Alors, est-ce que je suis un intellectuel? Pas dans le sens où je serais quelqu'un qui porterait des jugements moraux général sur le Burkini ou Emmanuel Macron à partir d'une réputation acquise ailleurs, mais je suis un intellectuel en sens que je suis payé pour produire des idées en principe nouvelles dans un cadre précis qui sont les demandes de l'État, du ministère des Affaires étrangères, du ministère de la Défense, qui recherche des solutions auprès de l'IRIS. Et par ailleurs, je ne suis pas un intellectuel de défense ou de défense uniquement, puisque l'autre moitié de mon cerveau est consacrée à une discipline que vous connaissez bien, mon cher Régis Debray, qui est la médiologie.
Oui, mais là, on est là pour parler de choses sérieuses. Je ne dis pas que la médiologie ne l'est pas, mais on est là pour parler de la guerre et de comment penser la guerre et François-Bernard Huyghe éventuellement penser pour peser. Donc, il me semble qu'il y a eu dans notre histoire tout de même quelqu'un qui a fait de la guerre un thème d'étude, un certain Gaston Boutoul. Hein, ça s'appelait la polémologie. Qu'est-ce que c'est devenu, ça?
Eh bien, ça n'est rien devenu. Et c'est ça qui est très intéressant. Alors, Gaston Boutoul, juriste, philosophe, qui, pour faire simple, entre les années 60 et 1980, date de sa mort, anime un mouvement de réflexion sur la guerre, mais essayant de réfléchir sur la guerre comme un fait social, la façon dont Durkheim a réfléchi sur la société, sur les faits sociaux.
Est-ce que donc, ça a eu de l'effet, de morale. Ça? Est-ce que les militaires ont regardé, ont lu Monsieur Boutoul?
Alors, certains militaires intelligents que je connais, oui, mais là, il n'y a pas eu véritablement de postérité de Gaston Boutoul. Alors, pour de nombreuses raisons. La première, c'est qu'il n'a probablement pas trouvé de relais dans les médias, auprès des gouvernants, dans l'université, où il y aurait eu en quelque sorte un avantage à pratiquer la polémologie. C'est un petit peu mort avec le créateur de la discipline. Et par ailleurs, idéologiquement, effectivement, travailler sur la guerre au moment où se dessinait une Europe qui n'aurait plus d'ennemis, qui vivrait dans la paix perpétuelle un peu qu'ancienne, etc., ça n'était pas très très populaire. Oui. Enfin, troisième défaut, c'était français, pas anglo-saxon.
Disons que c'est une discipline qui n'a pas pris, mais qui tient aussi au fait que la guerre n'était pas très valorisante pour un intellectuel. Alors, est-ce qu'on peut traiter de la guerre comme une sphère séparée des relations internationales? C'est pas ce que Raymond Aron pensait, en tout cas. Je pense à Sartre tout d'un coup, vous savez, dans les mots, il dit, moi, j'étais poulou, c'est comme ça, il avait un poulou polémographe, il adorait parler sur la guerre. Mais vous, tout de même, si je vous ai demandé de venir, c'est que vous êtes un peu un précurseur. Vous avez écrit « L'ennemi à l'ère numérique », hein, c'était, je crois, en 2002.
2001.
Et donc, aujourd'hui, nous y sommes, là, vous devez être là sur le pont, vous êtes à votre affaire, on a un ennemi, paraît-il, enfin, effectif, en tout cas, qui se déclare comme tel, c'est Daesh, ce qu'on appelle le terrorisme, qui utilise bien le numérique. Alors, j'imagine que vous avez beaucoup de choses à faire. Merci d'être venu pour discuter de tout ça.
Alors, effectivement, on n'est pas au chômage. En 2001, je me posais la question de ce que la technologie numérique en particulier, allait changer à la façon de se battre collectivement. Hein. Et d'une part, on a vu apparaître, on en parlera peut-être un petit peu plus loin, des cyberattaques, une cyberstratégie, c'est-à-dire une façon d'utiliser les outils informatiques et les réseaux sociaux pour faire du mal à autrui, affaiblir ses capacités, et d'autre part, une forme de violence qui était totalement exclue à l'époque où on baignait dans les projets d'Europe en paix, qui est la violence djihadiste. Donc le pronostic était pas trop mauvais, et effectivement, la guerre revient, ou du moins la notion d'ennemi qui était totalement tabou revient, y compris dans le propos de nos gouvernants, qui d'ailleurs ne savent pas très bien à qui nous faisons la guerre. Est-ce qu'on fait la guerre au terrorisme, à l'extrémisme, au djihadisme, au salafisme, à la barbarie? C'est une question qui fait débat.
Non, mais écoutez, voilà le ton universitaire, n'est-ce pas ? C'est une question. Enfin, il y a une réponse à ces questions. Alors, François-Bernard Huyghe.
La réponse à ces questions est que nous n'avons pas le sentiment d'être en guerre, nous ne sommes pas formellement en guerre, parce que juridiquement c'est pas rien, hein, je veux dire, il y a des articles de la Constitution, mais, cher Régis Debray, on nous fait la guerre, et cette guerre a un nom précis qui est le djihad, qui émane d'un califat qui prétend être un État.
Oui, c'est pas parce que quelqu'un vous déclare la guerre que vous devez rentrer dans son jeu en faisant d'un criminel un ennemi, n'est-ce pas?
Alors, ça,
pour tout vous dire, moi, je n'entends pas du tout partir en guerre contre la guerre. Hein. Je ne suis pas un pacifiste, mais je ne veux pas prendre un effet d'autorité pour une vérité objective.
Alors,
et je pense que nous déclarer en guerre, c'est une imposture. Voyez-vous, je réponds aux questions que très timidement vous dites, est-ce qu'on peut se poser une question? Moi, je vous dis que, honnêtement, nous sommes dans un état de violence épidémique et sporadique, mais que la guerre des nerfs n'est pas la guerre tout court. Alors, je ne dirais pas une drôle de guerre, parce que vous allez dire, mais tout de même, c'est l'inverse. La drôle de guerre, c'était une déclaration de guerre entre États souverains, non suivie de choc entre armées régulières. Là, évidemment, c'est pas du tout la même chose. On a des tueries inopinées à domicile sans déclaration de guerre préalable. Mais je vous rappelle que la drôle de guerre, c'est tout de même 1500 morts de chaque côté, hein, entre septembre 39 et mars 40. 1500 morts de chaque côté. Pour nous, il paraît, j'ai lu dans un magazine, la Troisième Guerre mondiale est déclarée et elle nous a fait en un an
250 morts.
Alors, des guerres mondiales comme ça, moi, j'aimerais bien qu'il y en ait beaucoup, si j'ose dire.
Oui, mais la différence, mon cher Régis Debray, c'est que la guerre mondiale, elle se déroulait quelque part. On allait des pays, en envahissait d'autres, on avait un endroit où se battre, et un de ces endroits, c'était la France occupée en particulier. Tandis que ce qui change avec cette guerre, c'est que chez nous, nous subissons ce qu'on a appelé autrefois la guerre du pauvre, et qui est le terrorisme. Alors le terrorisme, c'est sporadique, ce sont des groupes cachés qui agissent brusquement, qui tuent et qui rentrent chez eux ou se font exploser. Une guerre, ça dure, il faut des armées, il faut de l'intendance, il faut des batailles, etc. Donc nous subissons le terrorisme, qui est quelque chose qui est à mi-chemin entre la guerre du pauvre et la propagande par le fait, mais ça, ce n'est pas une vraie guerre avec des batailles, des forces en présence. En revanche, pendant ce temps-là, il y a un État ou un proto-État qui lève des impôts, qui bat monnaie et qui administre la justice, qui s'appelle le califat et qui se bat sacrément chez lui. Alors nous, c'est que nous faisons une sorte d'intervention policière. Nous allons les bombarder, ce qui doit probablement faire quelques morts civiles quand même, parce que nos bombes ne sont pas miraculeuses, mais nous appelons ça une intervention, ce qui est d'une grande hypocrisie à certains égards. Mais ces interventions, nous ne savons pas exactement vers quelle paix elles doivent
évidemment
mener.
Puisque
c'est ça la question.
Non, mais il y a des réponses à ces questions, François Bernard Huyg. Qu'est-ce qu'une guerre qui ne peut pas avoir de traité de paix?
Alors ça, c'est une question fondamentale. La guerre.
Non, mais laissez-moi poursuivre. Qu'est-ce qu'un ennemi qui ne pourra jamais se déclarer vaincu? Puisqu'on ne peut pas imaginer que des djihadistes, constatant que le tout-puissant n'est pas tout-puissant, rentrent chez eux en disant « bah écoutez, on va signer un traité d'armistice ». Donc, nous voilà dans une guerre proprement ingagnable, que j'appellerais un conflit de basse intensité, transnational certes, parce que religieux par beaucoup d'aspects, le religieux est transfrontière, en tout cas qui doit mobiliser bien sûr nos microscopes et nos télescopes, c'est-à-dire nos services de renseignement et notre police. Mais de là à en faire une guerre en bonne et due forme, mon cher François Bernard, c'est ce que j'appelle une posture, c'est-à-dire une imposture. C'est une posture classique chez tous les gouvernements qui ont toujours bien intérêt, bien sûr, à sonner le tocsin pour bâillonner les mauvaises têtes et rassembler tout le monde derrière le chef. C'est très bon pour se maintenir en place. Je dirais que la peur du péril extérieur sauve du péril intérieur, si vous voulez. En ce sens, que les politiques parlent de guerre, je l'entends bien, c'est de leur intérêt. Mais qu'un chercheur, un homme sérieux,
soyons plus précis.
Puisse parler de guerre, excusez-moi, je me dis bizarre.
Alors, ce n'est pas une guerre en ce sens que personne ne peut la gagner. Les djihadistes ne peuvent pas la gagner. Enfin, je ne pense pas qu'un jour il y aura un émirat de Paris qui sera installé ou un émirat de Washington D.C. Ils ont
quand même plusieurs
milliards d'ennemis, hein, si on compte tous les gens qui détestent.
Oui. Bon. Donc, je crois qu'ils
ne peuvent pas gagner techniquement.
Une guerre a un but politique. Là, si le but politique de nos ennemis, c'est de convertir au djihadisme version wahhabite 7 milliards de personnes.
Ils échoueront. Nous sommes
je
d'accord.
Je pense que ils échoueront. Et que nous, si on pense que c'est parce qu'on aura pris la ville de Mossoul qu'on va en finir avec Internet et la croyance au paradis, on se trompe aussi.
Alors, problème également, nous ne pouvons pas la gagner non plus. Alors, il est possible que dans quelques mois, nous arrivions à Raqqa, qu'on enlève le dernier drapeau noir et qu'on tue al-Baghdadi. Mais effectivement, il va y avoir un effet de dispersion de tous ces gens. Il y a énormément de ce qu'on appelle les foreign fighters, les combattants étrangers qui vont là-bas par milliers pour rejoindre le califat. Et tous ces gens, ils vont aller quelque part. Sauf à imaginer que nos armées tuent 60 000, 100 000 personnes, ce qui est peu, qui serait pas très populaire. Donc, ces gens vont se disperser.
60 000 personnes dont il y aurait.
Dont beaucoup de Français.
50 000 civils.
Dont 50 000 civils, car en ce moment, on montre beaucoup des photographies d'un petit Syrien qui aurait été blessé par les bombardements russes ou syriens. Mais enfin, nos avions font des sorties tous les jours et on ne doit pas toucher que des criminels, on doit toucher forcément des civils aussi. Et on pourrait probablement produire des photos similaires nous mettant en accusation. Donc, nous ne pouvons pas gagner cette guerre parce que ceux qui sont là-bas se disperseront. Et d'autre part, en ayant écraser le califat et apparemment continuer la croisade contre les musulmans, nous allons nous susciter de nouveaux ennemis. C'était le général Powell qui, pendant l'intervention en Irak, disait « Le problème, c'est de ne pas avoir le soir plus d'ennemis que je n'en ai buté le matin. »
Alors, pourquoi parler toujours de guerre, François Bernard? Une guerre de religion, aucune autorité ecclésiale de la planète n'assume cette guerre.
Ah, sauf le califat qui s'est auto-proclamé.
Oui, mais enfin, excusez-moi, pas plus le pape catholique que le recteur sunnite d'El-Azhar. Guerre de civilisation, aucun État Aucun état phare d'une civilisation n'assume ça, cette extension théâtrale. Guerre civile, moi je vois pas où sont les milices en France, les paramilitaires militaires qui
nous emmenagent beaucoup de la guerre civile en ce moment.
Oui, bien sûr.
Y compris un responsable des services de renseignement et quelques polémistes plutôt conservateurs. Or, là encore, la guerre civile, il suffit pas de se haïr. Il suffit pas de rapports détestables entre les communautés pour qu'il y ait une guerre civile. Il faut que des gens prennent les armes. Il faut qu'on le fasse des deux côtés. Il faut que ça ait une certaine durée. Nous en sommes loin pour le moment.
Donc c'est vrai que Clausewitz, réveille-toi, pourriez-vous dire, mais que les choses ont beaucoup changé, notamment par la technologie depuis Clausewitz, bien sûr, et qu'on ne peut plus avoir la même conception, la même définition de la guerre. Et là, je pense que les recherches que vous faites, notamment sur la cyberguerre, nous font entrer dans un nouveau monde. Est-ce qu'on peut dire que la cyberguerre, c'est une guerre propre, qui ne fait pas de mort?
Alors, oui, mais si elle ne fait pas de mort, c'est peut-être pas une guerre. Voilà donc la question qui se pose. Alors, la cyberguerre, essayons de la définir. Enfin, moi, je connais surtout des cyberattaques, c'est-à-dire le fait que soit des États qui se dotent d'une technologie pour ça, ça s'appelle des armes informatiques offensives, la France en a, entre parenthèses, soit des groupes à motivation idéologique ou de mercenaires, attaquent les systèmes informatiques d'autres pays, soit pour espionner, mettre sur la place publique des choses scandaleuses comme ce qui est arrivé au Parti démocrate américain, soit pour empêcher un système de fonctionner. On met une usine en panne, on arrête les feux rouges une ville, ou alors évidemment on se moque de l'adversaire, on l'injurie, on le provoque, par exemple en dessinant les moustaches d'Hitler sur son site.
Oui.
Mais ça ne tue personne. Ça, et surtout, différence avec la paix. Vous citiez Clausewitz tout à l'heure, mon cher Régis Debray. Clausewitz, c'est un penseur de la paix. C'est quelqu'un qui dit qu'on fait la guerre en vue d'obtenir la paix, c'est-à-dire de faire céder la volonté politique de l'autre. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut faire avec le cyber actuellement. S'ajoute d'ailleurs un autre problème. On ne sait pas qui a fait le coup dans le cyber. Par définition, les attaques sont anonyme, on a de très fortes présomptions, mais on pourrait se tromper de coupable. Quand il y a une vraie guerre avec des vrais tanks, on sait à qui ils appartiennent.
Oui. Pour gagner une guerre, François Bernard Huyg, il faut convaincre le vaincu qu'il est vaincu. Alors, je crois qu'on aura du mal avec les terroristes, enfin, ce qu'on appelle ainsi, ceux d'aujourd'hui, parce que le mot de terrorisme, comme vous savez, prête à beaucoup d'usages. Gagner une guerre, c'est faire croire qu'on l'a gagnée, n'est-ce pas?
Absolument, oui.
Et c'est pas seulement tuer l'autre, c'est convaincre les survivants que ça vaut pas la peine de continuer. C'est d'ailleurs le problème dans les guerres de religion. Est-ce qu'un croyant peut tout d'un coup admettre que son Dieu est vaincu? S'il est vaincu, c'est que c'est pas Dieu. Donc c'est un problème. Donc il y a sans doute des nouveaux paramètres, et j'imagine que dans vos think tanks, comme vous dites, on réfléchit à tout ça. Je vous parlais tout à l'heure du complexe militaro-intellectuel, le mot est peut-être ambitieux, mais j'entends parler de think tank, et d'ailleurs peut-être que l'IRIS est un think tank, mais un think tank, pour moi, c'était une boîte à idées, ça se disait en français.
Alors, effectivement, pourquoi avoir pris un mot anglo-saxon qui, entre parenthèses, est de l'argot militaire américain? C'est un mot qui apparaît en 1947. Le think tank, c'est une sorte de bunker où l'état-major se met pour réfléchir à l'abri des bombes. Alors, pourquoi a-t-on adopté ce terme? Eh bien, c'est la traduction d'un rapport de force. Tous les plus grands think tanks du monde sont américains. Il y en a des dizaines de milliers à travers le monde. Il y a une prédominance américaine. Un exemple, le premier think tank, en quelque sorte, officiellement reconnu, c'est la Brookings, et elle va avoir 100 ans l'année prochaine. Et j'ai visité leurs locaux, croyez-moi, c'est luxueux, on est bien accueillis. Donc
c'est gentil,
rapport de force.
C'est gentil, François Bernard Huyg, de parler de prédominance. Moi, je parlerais tout simplement de domination.
Alors, c'est une domination en ce sens que les deux choses ne sont pas exactement pareilles. Ils sont beaucoup plus riches, beaucoup plus forts, beaucoup plus influents, c'est ça la prédominance. Mais d'autre part, les milieux qui pensent la guerre ou qui sont censés la préparer sont très largement influencés par eux. Et ça, c'est de la dominance ou de l'influence, en tout cas.
Oui, je me demande pourquoi tous ces think tanks français n'ont pas tout de même le sens de leur dignité. Jusqu'à quel point ils vont se contenter de traduire des concepts venus d'Amérique, de donc moudre du grain venu d'ailleurs, qui répond à des intérêts américains parfaitement légitimes en Amérique. Mais enfin, moi, je me souviens du temps où il y avait tout de même des stratèges en France qui inventaient leurs propres idées.
Oui, hein. Alors, ne disons pas que tous les think tanks sont pro-américains ou suivent la pensée américaine. L'IRIS, en particulier, avec son directeur Pascal Boniface, ont plutôt une réputation d'être anti-américains. Voilà. Et nous ne sommes pas les seuls sur le marché des idées.
On est bien d'accord qu'il ne s'agit pas d'être, mon cher François Bernard, pro ou anti. Voilà. Il s'agit tout simplement de penser avec sa tête et de faire autre chose qu'une succursale de la pensée stratégique américaine ou de la politique étrangère américaine. Et parfois, quand on lit vous personnellement, mon cher François, mais quand on lit les articles de ces think tanks,
c'est souvent du traduit ou du copier-coller.
On a envie de se reporter à l'original, on gagne beaucoup de temps.
Et l'original est souvent néoconservateur et produit dans un petit triangle au centre de Washington DC. Alors, il y a une prédominance, ou dominance, on ne va pas discuter du terme, américaine qui tient à plusieurs facteurs. D'abord, il y a un facteur de masse. Ils sont très nombreux. Ils sont puissants, ils produisent énormément, ils encombrent le marché des idées dans la langue dominante qui est l'anglais. Deuxièmement, les gens qui sont dans les think tanks américains sont souvent puissants parce que ils circulent dans les cercles de la puissance. Je m'explique.
On peut être dans un
think tank et puis au gouvernement et puis dans une grande entreprise.
On
et
est
puis
bien enseigner. D'accord.
Bon,
on est,
ça, on... c'est inimaginable en France.
Oui, mais attendez. Avant de poser cette question capitale, François Bernard Huyghe, qui est le rapport de la pensée et de l'action tel qu'il est aujourd'hui en France. On peut tout de même s'étonner du fait que les États-Unis ont perdu toutes les guerres qu'ils ont menées depuis 1945, avec
exactement,
peut-être un petit bémol pour la guerre de Corée. Et pourtant, nous sommes scrupuleusement, intellectuellement, à leurs pieds. Eux produisent la doctrine de leur pratique. Bon, la pratique, elle n'est pas victorieuse. Et pourtant, nous, la doctrine, à chaque fois, ça vient chez nous. La guerre zéro mort, l'info dominante, la révolution militaro, je ne sais quoi.
Révolution d'affaires militaires.
Et donc, je me dis, mais est-ce qu'à un moment donné, tous ces think tanks, je crois qu'il y en a chez nous combien, 500?
Alors, c'est très difficile de dénombrer, de vrais, il y en a une dizaine, mais énormément de groupes de réflexion politique s'intitulent think tank parce que c'est chic. Mais nous sommes dans les centaines, oui.
Without thinking.
C'est vous qui avez choisi les Pink Floyd, mon cher François Bernard. Ça m'étonne pas. Vous n'alliez pas nous donner du Léo Ferré ou du Jean Ferrat, j'imagine.
Alors, j'ai choisi les Pink Floyd. D'abord, c'est un symptôme de ma génération et de mes retards dans mes goûts musicaux. Mais ce morceau s'appelle quand même War of Dogs, hein, les chiens de guerre. Et le thème, c'est qu'il n'y a qu'un seul monde et nous allons le remplir de notre violence. Voilà, donc c'est un texte extrêmement violent, ce que personne n'a entendu dans le fond des basses.
J'espère que ce n'est pas votre programme.
Les discussions du soir, Régis Debray.
Oui, François-Bernard Ruig, c'est de la guerre dont nous parlons, puisqu'il paraît que nous sommes en guerre, et que un technicien de la guerre comme vous, j'imagine qu'il a des choses à dire. Moi, j'en ai une petite. C'est que... est-ce qu'on peut techniciser la guerre? C'est un peu la pensée ou la ligne de conduite américaine depuis tout le temps, hein, une sorte de conviction dans la supériorité technologique, hein, aussi bien dans le domaine du renseignement, source technologique plutôt que source humaine. Et il est vrai qu'ils ont des moyens technologiques que nous n'avons pas, mais la tradition française, c'était tout de même la guerre, c'est de la politique. Hein. Bon, Clausewitz, etc. Reprenons pas le mot de Clémenceau, chose trop sérieuse pour la laisser aux militaires. Mais est-ce que vous, dans tous ces think tanks, vous n'êtes pas en train de couper la technique militaire de la pensée politique et même de l'objectif politique?
Alors, pour ma maison mère, l'IRIS, je répondrai certainement pas, puisque nous sommes parmi les plus critiques sur cette vision technologique de la guerre. Moi-même, dans un livre écrit avec des amis sur « Gagner les cyberconflits », le sous-titre est « Au-delà du technique », hein, précisément. Mais alors, effectivement, il y a une question, c'est que cette technologie, qu'il s'agisse de l'espionnage monstrueux auquel se livre la NSA, ou de toutes ces techniques de tuerie ciblées par drones bien propres qui ne font pas de dommages collatéraux, ça n'apporte pas la victoire au sens classique, c'est-à-dire que l'autre arrête de se battre et de vous détester et qu'on inscrit sur les monuments dans les jardins qu'on a gagné telle guerre, gloire à nos morts. Hein. Ça ne marche pas non plus. Mais ça ne marche pas moins encore d'un point de vue idéologique, puisque le problème des guerres américaines, c'est de faire, suivant le terme qu'a employé George W. Bush, que ces gens cessent de nous haïr ou cessent de haïr la liberté.
Ouais, évidemment, donc, ils n'en prennent pas le chemin.
Le chemin, voilà. Surtout si on les bombarde.
Bon, les guerres américaines, d'accord, hein, on est tous d'accord que c'est à chaque fois des catastrophes. Beaucoup d'intellectuels, d'ailleurs, soutiennent ces catastrophes, comme vous le savez, mais on l'oublie cinq ans après, ça peut recommencer. Et les interventions françaises, ce qu'on appelle les OPEX, vous les appelez guerre?
Alors, ce sont des interventions. Donc, nous sommes dans une situation qui n'est pas du tout symétrique. Nous sommes dans le ciel ou avec une supériorité militaire. Et
nous sommes à terre.
Et alors, au Mali, en Centrafrique, nous sommes à terre, mais avec une supériorité matérielle. Et effectivement, pour ceux qui nous voient en face avec nos canons, ça peut apparaître comme une guerre. Mais officiellement, politiquement, nous soutenons des forces locales et nous faisons une sorte de super opération de police ou de maintien de l'ordre qui ne vise pas en tout cas à obtenir la défaite de quelqu'un mais à faire disparaître des délinquants, des terroristes, des guérilleros, des gens qui troublent la paix publique.
Oui, non, on est
nous
bien d'accord. Non, attendez,
réussissons François, modestement.
Mais François Bernard, vous redites la parole gouvernementale, n'est-ce pas? C'est très bien. C'est peut-être la fonction des think tanks que de répondre aux questions posées par le gouvernement dans les termes mêmes où la question est posée, au lieu de remettre en question les termes de la question. Bon, et alors là, ces OPEX qui sont, je dirais, une projection de force sur des terrains lointains dont nous ignorons la culture, dont souvent nous ne parlons pas la langue.
Nous sommes un petit peu moins mauvais que les Américains pour ça.
Sans doute, parce que c'est un terrain que nous connaissons mieux, c'est l'Afrique francophone. Ce n'est pas évidemment l'Afghanistan pour la Californie. Nous sommes d'accord. Mais est-ce que là-dessus, vous avez des éléments à apporter? Est-ce que vous avez, en tant que homme d'études du phénomène militaire, est-ce que vous avez des critiques à formuler ou des éléments à apporter à nos autorités, comme on dit?
Alors, le problème n'est pas de commencer la guerre et de gagner des batailles, c'est de la finir et de se retirer chez soi. Hein, c'est très exactement ça. C'est-à-dire qu'il faut obtenir une paix où il n'y ait plus d'ennemis qui se manifestent. Et il faut essayer de ne pas en produire plus par sa présence place que l'on a fait. Là, si nous devons devenir une sorte de force supplétive de police remplaçant des armées locales déficientes, c'est une situation qui, à long terme, ne peut être... que mauvaise et catastrophique et amener encore plus de violence armée. Donc le problème, on l'a très bien vécu en Afghanistan, c'est de savoir se retirer. On a été en Afghanistan d'abord pour vaincre les méchants terroristes. Après, nous avons tenu un discours en disant que grâce à notre présence, les petites filles pouvaient aller à l'école. Eh bien, finalement, il a bien fallu se retirer à un moment ou à un autre. Et c'est le problème des guerres contemporaines où on envoie un corps expéditionnaire qui ne va pas prendre le pouvoir sur place, mais qui voudrait laisser une situation stable, ce à quoi on ne parvient jamais.
Oui, alors, ce qu'il y a de troublant, n'est-ce pas? Moi, je vous écoute avec bienveillance, comme on dit, mais je me demande tout de même, il y a les penseurs d'un côté, c'est-à-dire les gens qui réfléchissent, qui étudient, qui comparent les situations dans leur petit laboratoire, dans leur petit think tank, excusez-moi, je parlais français. Et puis de l'autre côté, il y a des gens qui prennent des décisions. Et je me demande, mais est-ce qu'il y a, n'est-ce pas, un lien de communication, un lien d'échange entre les centres de décision et puis les centres de réflexion? Moi, ce qui me frappe, pour tout vous dire, c'est à quel point dans ces domaines internationaux et stratégiques, la pensée, l'étude, les hommes de pensée et d'études sont coupés des hommes aux manettes. Et j'ai envie de vous dire, mais à quoi ça sert tout ce que vous faites, monsieur Huyghe ?
Alors oui, c'est très angoissant. Est-ce que tous les beaux rapports sur lesquels je travaille pendant des mois sont confiés au sergent Panier pour être oubliés dans un placard ? C'est une hypothèse qui m'a traversé l'esprit deux, trois fois. En France, en tout cas, il est très rare, effectivement, de voir une idée produite par des chercheurs purs se traduire en action, être une doctrine au sens militaire, c'est-à-dire des règles qu'on doit suivre et appliquer sur le terrain. On s'y efforce, mais on se trouve confronté d'une part à des blocages purement bureaucratiques. Hein. L'armée est une bureaucratie comme les autres, même s'il y a des gens très ouverts et très intelligents. Et d'autre part, au rapport entre l'armée et le politique. Il faut que tout ça remonte jusqu'au cerveau du politique. Et le politique, il a d'autres préoccupations qui sont plus immédiates, plus électorales, plus idéologiques,
oui,
etc.
Oui, là, on trouve... il a un cerveau, évidemment... fatigué, notre politique, parce qu'il doit tout le temps répondre aux journalistes. Et donc, il oublie un peu l'histoire et la géographie. Mais vous savez, c'est peut-être un vieux défaut de la démocratie, encore plus grave dans la démocratie d'opinion, ce vieux défaut que Tocqueville avait bien vu en Amérique, qui est que les affaires du dehors sont soumises aux affaires du dedans. Ce qui fait que toute politique étrangère est finalement une politique intérieure détournée. Donc je comprends que vous n'ayez pas prise sur les rapports de force entre les différentes communautés ethniques qu'il y a en France, sur les circonscriptions qu'il faut garder, là où il y a des Arméniens, sur les groupes qu'il faut ménager, là où il y a une communauté juive, etc. Je comprends que vous n'ayez pas prise sur ça. Mais moi, ce qui m'étonne, monsieur Huyghe, c'est que Marx appelait la France le pays de l'idée. Et chacun sait qu'il y avait en France des philosophes politiques, des idéologues, etc. Or, où y a-t-il de l'idée en politique? C'est aux États-Unis. où vous avez des intellectuels comme vous, des universitaires qui se retrouvent secrétaires d'État ou sous-secrétaires d'État, qui se retrouvent dans les policy planning staff, qui se retrouvent auprès du président de la République. Et moi, je n'ai jamais entendu que M. Thierry de Montbrial ou M. Pascal Boniface aient été pressentis pour être ministre de la Défense ou aux affaires étrangères comme Brzezinski, comme Joseph Nye, comme un certain nombre. C'est-à-dire que nous sommes américains, mais par le mauvais côté, n'est-ce pas?
Oui, alors il y a un paradoxe.
Vous, vous êtes américain parce que vous broyez tous vos articles, tous vos articles qui viennent d'outre-Atlantique. D'ailleurs, vous allez toujours dans des stages aux États-Unis plutôt qu'à Moscou ou à Pékin.
C'est même
intéressant. Mais est-ce que, comment expliquez-vous cette sorte de cloisonnement?
Alors, il y a effectivement un problème, c'est que nous sommes censés être le pays des idées, et des idées universelles. Nous en vantons assez. Nous sommes censés être le pays des intellectuels, voire des intellectuels critiques, encore que les critiques, j'en vois de moins en moins. Mais aux États-Unis, les idées comptent. Les idées sont faites pour être appliquées. Le slogan d'un des grands think tanks conservateurs...
Ideas do matter.
Ideas do matter. Voilà, exactement. Les idées, ça compte, et les idées, ça doit se traduire en actes.
Alors qu'en France, apparemment, cette mentalité... on s'en fout. On vous invite pour faire de la décoration
dans des
colloques, etc.
Ne menez pas la dépression nerveuse. Moi, je l'ai réuni sans vous montrant quel vide sidéral.
Je
commence à être triste.
Mais le monde universitaire est très respectable. Mais on souhaiterait, quand il s'agit de la guerre, qu'il y ait un peu plus de voies de communication aller-retour.
Les voies de communication, effectivement, nous produisons de beaux rapports, etc., mais on aura toujours beaucoup moins d'influence sur le gouvernement qu'un intellectuel médiatique qui peut aller devant le perron de l'Élysée avec quelques copains barbus, enfin, voilà. Et par ailleurs, il y a quand même un rapport de fond différent. C'est que tous ces chercheurs américains, appelons les intellectuels de défense, etc., ils pensent en termes de puissance. Pour eux, les idées doivent accroître la puissance des États-Unis, les aider à gagner la guerre cyber, à gagner la guerre hybride du troisième type. Enfin, ils ont des tas de termes très compliqués pour ça, mais ça vise quand même à quelque chose de très clair qui est gagner, aider mon pays à gagner. En France, nous avons eu des intellectuels militaires tout à fait remarquables, général Poirier, des gens comme ça. Mais c'était à l'époque où, d'une part, nous avions une politique de puissance et de souveraineté, et nous posions une question qui importait à notre souveraineté, qui était, par exemple, qu'est-ce que la dissuasion nucléaire? Comment doit-on la faire?
Oui,
dans quelles conditions? Ça incite à penser.
D'où le général Ayret, d'où le général Gaillois, d'où la doctrine française de la dissuasion du faible au fort,
exactement,
du tous azimuts. C'était une époque où nous produisions nos cadres de pensée au lieu de nous encadrer dans la pensée des autres. Mais là, je crois qu'on vient sur un terrain très délicat, mon cher François Bernard Huyghe. Nous sommes sur une radio nationale, il faut faire attention à ce qu'on dit et parler de l'intérêt national.
C'est un peu obscène.
Sur une radio nationale française, on risque de passer d'abord pour des archéos, des malotrus et même des gens un peu suspects.
Il n'y a qu'en Europe qu'on pense ce genre de choses.
Oui, alors c'est précisément, c'est un phénomène très très étrange parce que l'intérêt national est assumé d'abord aux États-Unis. Et aussi dans la plupart des pays du monde, sans parler évidemment bien sûr des grands, la Chine et l'Inde. Et nous, on est un peu complexés, n'est-ce pas? Il faut penser morale, il faut penser Europe, il faut penser gouvernance mondiale. Autrement dit, j'ai peur que nous soyons l'un et l'autre, je n'ose pas le dire, des souverainistes. C'est très embêtant carrière, dites-moi.
M'avoir déprimé. M'avoir fâché avec mes amis militaires qui sont fort intelligents, donnant l'impression que voilà,
que vous ne servez à rien.
Vous êtes en train de tuer ma réputation médiatique. Il faut que je sorte de cette émission en courant, je crois.
Ah, écoutez, on va finir cette émission sur tout de même une petite note d'espoir. C'est qu'après avoir beaucoup copié après avoir beaucoup erré, nous retrouvions, je dirais, le sol, que nous mettions les pieds sur terre, et les pieds sur terre, c'est sans doute réfléchir à ce que c'est que l'intérêt national. Il n'est pas simple à définir, je le reconnais, mais je ne connais pas de guerre victorieuse ou je ne connais pas de politique étrangère à succès qui ne se soit basée sur cette idée fondamentale qu'un pays doit se battre pour ses intérêts qui ne sont pas seulement des intérêts économiques et financiers. Alors, c'est une vaste discussion dont j'aurai l'occasion de reparler avec des diplomates et bien sûr des généraux, mais j'étais heureux d'avoir un intellectuel parce qu'au fond...
Encore des injures.
Non. Intellectuel n'est pas injurieux pour moi. Intellectuel, c'est un recul critique. Mais c'est très souvent des mots creux. Mais avec vous, je vois que les mots peuvent encore avoir un sens. À bientôt, François
Merci,
Bernard.
Merci, mon cher.
Les discussions du soir. Merci, François Bernard Huyghe.
Merci, Régis Debray.
Les discussions du soir, Laurence Genepin, Pierrick Charles, Anne-Pascale Desvignes et Régis Debray.